Technologie, science, algorithme,
simulation,
information, recherche,
géométrie,
modélisation,
mathématiques,
réseau,
informatique.
Notre invité du jour est Jean-Paul Hatton, chercheur en intelligence artificielle à Nancy. Depuis longtemps déjà, on entend parler de l'intelligence artificielle, que ce soit au travers des médias ou autour de nous. Mais qu'est-ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle ?
Oui, d'abord, vous avez raison de dire que c'est depuis longtemps, puisque quasiment dès que l'informatique est née, des chercheurs un peu visionnaires se sont demandé est-ce que ces machines vont être un jour intelligentes, hein ? Un des grands noms de l'informatique, c'est Alan Turing. Dans les années 1950, même avant, s'est posé la question « Can a computer think ? » Est-ce qu'un ordinateur peut penser ? Et il avait un petit peu posé ce qu'était l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle se propose de concevoir des systèmes informatiques qui possèdent des qualités ou des comportements qui sont réputés intelligents quand on les rencontre chez un être humain ou chez un animal supérieur.
C'est quand même difficile d'imaginer qu'une machine peut être intelligente.
Ces fameux comportements intelligents dont je parlais, ça peut être le simple fait de se mouvoir dans une pièce sans se heurter au meuble. Il faut une certaine capacité de vision, d'interprétation de scène, qui n'est pas négligeable. Le fait de comprendre quelqu'un qui parle, c'est aussi une preuve d'intelligence. Ensuite, on va arriver à des tâches de diagnostic, par exemple, ou de prise de décision.
La différence, quand même, c'est qu'un être humain a une capacité à apprendre par des processus cognitifs. Comment est-il possible de reproduire ça chez une machine ?
Un système intelligent, qu'il soit biologique ou électronique, c'est un système qui est capable de s'auto-améliorer par l'expérience, de ne pas faire deux fois la même bêtise. Et en ce sens, on peut dire que nos systèmes intelligents, systèmes électroniques intelligents, qui savent faire déjà des choses importantes, hein, n'ont, sauf exception, pas cette capacité de s'auto-améliorer, c'est-à-dire de se rendre compte qu'ils ont fait une bêtise et de corriger. Ils savent un peu le faire, mais c'est vraiment le centre des travaux actuels. Le fait de faire ce qu'on appelle de l'apprentissage automatique ou semi-automatique, c'est vraiment un des points clés des recherches en IA.
Alors, quels sont les enjeux liés à la recherche en IA aujourd'hui ?
On peut dire qu'ils sont doubles. Il y a d'abord un enjeu qui est de mieux comprendre ce qu'est l'intelligence. Comment nos 100 milliards de neurones interagissent pour qu'il en sorte de l'intelligence. Mais il y a aussi, et de façon peut-être plus importante, plus en premier plan, une volonté de construire des systèmes qui ont des lueurs d'intelligence, comme je le disais au début. Des systèmes qui ont des comportements qui sont réputés intelligents si vous les rencontrez chez un animal.
Et quels sont les domaines d'application de l'intelligence artificielle ?
Comme ils me viennent à l'esprit, il y a le traitement de la langue naturelle, qu'elle soit écrite ou parlée. Alors un grand champ de recherche actuel, c'est la traduction parole-parole. Vous parlez dans une langue et votre interlocuteur vous entend dans une autre langue, par exemple au téléphone. Les personnes qui nous écoutent ont certainement un téléphone portable auquel on peut donner quelques ordres à la voix. Rappeler, conserver, effacer le message, hein. C'est le résultat de 30 ans de recherche intensive. Hein. Un autre domaine, c'est le domaine des jeux, et ça a été finalement un des domaines moteurs dès le début. Hein. Et les chercheurs se sont trompés, puisque si dans les années 50, on disait que la traduction automatique était quasi résolue, dans les mêmes décennies, les chercheurs disaient que incessamment, l'ordinateur serait champion du monde d'échecs. Bon, en 2007-2008, on n'était pas tout à fait là, pas loin. Et c'est certain qu'on y arrivera. Alors on pourra se demander à ce moment-là si le fait de jouer aux échecs est une preuve d'intelligence ou pas. Parce que, effectivement, les programmes qui jouent aux échecs bénéficient énormément de l'évolution technologique. Ils ont une grosse mémoire, ils calculent bien plus vite qu'un être humain. De même qu'ils ont ces avancées technologiques, ils ont également des mécanismes intelligents, de stratégie, de tactique, qui relèvent incontestablement de l'intelligence. Un autre domaine aussi qui bénéficie de l'intelligence artificielle, c'est la robotique, bien sûr, hein. Les robots autonomes, comme on les connaît bien à l'INRIA. Un autre domaine aussi important, c'est celui de la conduite de procédés industriels. Le fait de bien gérer une cimenterie ou un haut fourneau peut faire appel à des méthodes de l'intelligence artificielle.
Tout ça, ça nous donne un aperçu assez large de ce qu'on peut faire avec la recherche en intelligence artificielle. Mais finalement, quels sont les problèmes ?
quels sont les problèmes et quels sont les éléments de solution que les chercheurs apportent. C'est intéressant de voir que dès le début, dès les années 1950, 1960, disons, on a trouvé deux grandes écoles. Et ça a été très bien résumé par un philosophe américain qui s'appelle Dreyfus. En anglais, on dirait, la première école, c'est « making a mind », c'est-à-dire fabriquer une machine pensante. C'est une approche d'ingénierie qui consiste donc à essayer, en faisant complètement abstraction de ce qu'est le cerveau humain, de construire ex nihilo une machine pensante. Ça a donné lieu à ce que l'on appelle maintenant l'ingénierie de la connaissance ou les systèmes à base de connaissance. On a appelé pendant un certain temps, dans les années 1990-2000, les systèmes experts. Ce sont des systèmes qui ont des mécanismes de raisonnement fondés sur la logique, souvent, avec des moteurs d'inférence, qui exploitent donc des masses de connaissances qui ont été stockées dans des bases de connaissances et qui mènent des raisonnements de type plus ou moins logique, comme je le disais, pour arriver à un résultat. Ça, c'est la première grande approche. Mais il y en a une autre qui est tout aussi respectable, qui consiste, donc si je reprends toujours la formule du philosophe américain Dreyfus, « modeling the brain », modéliser le cerveau, la matière grise, hein, puisque effectivement, nous connaissons une machine qui fonctionne relativement bien. C'est le cerveau de l'animal supérieur. Donc là, il s'agit de faire une machine qui s'inspire de la structure du cerveau. Donc on appelle ça les modèles neuromimétiques ou connexionnistes. L'idée étant de faire des systèmes qui interconnectent un grand nombre de processeurs très simples qui s'inspirent directement du neurone. Dans les années 1940, deux chercheurs ont fait une première modélisation du neurone. Et c'est cette modélisation qui est encore à l'ordre du jour maintenant. Donc on sait faire des systèmes qu'on appelle réseaux neuronaux par abus de langage, parce qu'ils sont très loin d'être un réseau neuronal au sens animal du terme, mais néanmoins qui s'inspire de l'animal, je dirais plutôt, dans la mesure où le processeur élémentaire n'est plus du tout l'ordinateur tel qu'on l'imagine, mais est simplement un neurone. Ces deux approches se sont développées quasiment indépendamment pendant presque 50 ans. Et c'est seulement depuis le début du 21e siècle, ou à peine avant, qu'on a vu un rapprochement. Et les gens travaillent conjointement sur ces deux approches et essaient de les hybrider. Parce que finalement, les deux ont leur légitimité. Une troisième voie qui prend de plus en plus d'importance actuellement, je parlais des systèmes de reconnaissance de la parole, par exemple, que ce soit les machines à dicter, vocal, les téléphones, le fait d'avoir des centres de renseignement vocaux, tous ces systèmes qui marchent relativement bien ne sont pas fondés sur l'une des deux approches que vient d'évoquer, ou très peu, mais sont surtout fondés sur des modèles statistiques et stochastiques, disons probabilistes. Quand je dis stochastique, je veux dire modèles probabilistes qui intègrent le temps comme une de ces variables. Donc actuellement, nous avons trois grandes voies très interconnectés pour faire un système d'intelligence artificielle. La voie symbolique, c'est les moteurs d'inférence. La voie connexionniste, ce sont les réseaux neuronaux. Et la voie statistique, ce sont les modèles stochastiques, tels que par exemple les modèles de Markov.
Donc finalement, les problèmes auxquels vous êtes confrontés dans la recherche ne sont pas liés à la conception des programmes, mais plutôt à la résolution des problèmes.
C'est précisément un des grands domaines de l'intelligence artificielle. Ce que l'on veut faire, c'est résoudre des problèmes. Que ce soit un problème de diagnostic ou un problème de mathématiques, résoudre une intégrale par exemple, c'est bien de la résolution de problème. L'étape suivante, c'est effectivement de décrire le programme dans un langage de programmation qui va résoudre le problème. Il s'agit bien de construire un système informatique. Et bien sûr, sans évolution technologique, il n'y aurait pas de tel programme.
Maintenant, quelles sont les perspectives dans la recherche en IA ?
On progresse chaque jour, quasiment, sur nos modèles, on fait des systèmes qui résonnent mieux, qui comprennent mieux la parole, qui sont capables de poser des diagnostics de meilleure qualité.
Pour finir, Jean-Paul, peut-être avez-vous un ouvrage à nous conseiller sur l'intelligence artificielle ?
J'avais eu le plaisir d'écrire un que sais-je sur le sujet. Malheureusement, je pense que les puffs ont décidé de ne plus rééditer. Je pense que c'est une mauvaise idée. Si vous le trouvez chez des bouquinistes, vous pouvez toujours l'acheter.
Voilà, c'est la fin de ce podcast sur l'intelligence artificielle avec Jean-Paul Hatton. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jean-Paul. Chers auditeurs, à la prochaine. Et n'oubliez pas, l'informatique à portée de clic sur Interstice.